Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui se penchent sur les conditions de survie de l'Union européenne. Dans Considérations sur l'Europe, aux éditions du Cerf, le linguiste et philosophe Jean-Claude Milner revient sur une Union européenne décrédibilisée aux yeux de ses citoyens, critiquée par ses membres, attaquée par les populistes. Sous forme d'une conversation avec le journaliste et essayiste Philippe Petit, instruite par l'histoire et la réflexion politique, il passe en revue des questions aussi fondamentales que la paix, le néolibéralisme ou la justice sociale, avec une conviction, il faut sauver l'idéal européen. C'est la même urgence qui est à l'origine de La France contre l'Europe aux éditions Les Petits Matins, un livre d'intervention signé Mathieu Calame qui dirige la fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, plaidoyer pour que l'UE fasse le grand saut fédéral et constitue enfin un État-nation européen. Et en studio pour débattre ce soir, Thibaut Sardier de Libération. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Et Alexis Lacroix de L'Express. Bonsoir Alexis.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Jean-Claude Milner, Considérations sur l'Europe, conversation avec Philippe Petit aux éditions du Cerf. Jean-Claude Milner est linguiste et philosophe. Il mène depuis plusieurs années une réflexion sur l'engagement politique. Dans son dernier livre, Relire la Révolution, paru en 2016 chez Verdier, l'ancien maoïste se penchait sur ce qu'il appelait la croyance révolutionnaire, ce retour sur la révolution française, montrer comment l'événement avait créé des valeurs, des institutions et changé le sens des mots, tout ce que ne fait plus ou ne fait pas l'Europe. Dans cette conversation avec Philippe Petit qui nous intéresse ce soir, Jean-Claude Milner ne cesse de fustiger la médiocrité de l'époque, celle des élites et du projet européen tel qu'elle le porte. Il faut surtout cesser de présenter l'Europe comme une solution d'avenir si l'on veut qu'elle existe. Il est temps de franchir le pas et de poser qu'elle existe déjà. Au présent, pour la prendre au sérieux, il faut abandonner la culture des promesses, autre forme de la culture de l'excuse. De tout problème qui se pose aujourd'hui, l'Europe supranationale est aussi responsable que les États-nations. Voilà ce que dit Jean-Claude Milner. C'est à montrer le sens de cette responsabilité que s'emploie le philosophe et linguiste, qui attache, comme à son habitude, beaucoup d'importance à la force performative des mots. Il traque ainsi les phrases vides de sens, comme « l'Europe est notre avenir », afin d'essayer de voir ce qui véritablement mérite d'être sauvée, la culture européenne, puisqu'elle existe, qui doit être retrouvée. Mythe de la fin de l'histoire, ennui de la paix, critique du néolibéralisme, le philosophe aborde aussi la justice sociale, dont il dénonce l'abandon au profit de l'enrichissement. Alexis Lacroix, voilà, après ce rapide tour d'horizon de cet ouvrage qui est très très riche. Un mot peut-être d'abord pour commencer sur ce personnage, enfin cet intellectuel Jean-Claude Milner, qui est un intellectuel important de ces dernières années et qui vient donc là nous livrer sa vision, ses considérations
sur l'Europe. Vous avez quasiment tout dit, Raphaël.
Non mais justement,
c'est
le moment de débattre.
Comment vais-je pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice ? Non mais c'est vrai, en deux mots, présentons Jean-Claude Milner indépendamment de ses considérations sur l'Europe. De toute façon, c'est un des... On peut le dire objectivement, c'est un des plus grands intellectuels français d'aujourd'hui. Depuis les années 80, il a marqué le débat avec des livres qui ont fait date. Vous en avez cité certains. Le plaidoyer de l'école, notamment, qui était une charge très virulente contre les pédagogistes et leur supposé progressisme. Ensuite, il y a eu d'autres livres qui étaient consacrés à sa traversée intellectuelle du siècle. L'arrogance du présent, notamment, qui est toujours pareil, qui essaye de, comme le disait son ami Benny Lévy, d'aller voir derrière les lumières du progressisme. Donc c'est un intellectuel qui nous oblige à penser. Je vais vous dire quand même le fond de ma pensée, parce que après
vous
tout,
êtes là pour ça, Alexis,
je suis là pour ça. J'ai lu avec le plus grand intérêt cette nouvelle conversation avec le journaliste Philippe Petit, qui a été d'ailleurs mon collègue et mon ami au journal Marianne,
et qui a été notre collègue ici
et
qui est,
à France Culture, et qui est un excellent d'ailleurs débatteur d'idées, spécialiste d'histoire des idées. Mais le livre est absolument passionnant. Vous avez raison, il embrasse, si vous voulez, notre époque au sens le plus large du terme. Et ça fait du bien.
In cauda venom, j'attends la fin.
Non, mais ça fait du bien parce qu'on est aussi, et ça, il faut le dire, en faveur de Jean-Claude et de Philippe. On est dans une époque de la twitterisation des cerveaux. C'est-à-dire que les gens sont incapables de penser en dehors, si vous voulez, des débats polémiques de la télévision. Donc là, on en sort, c'est très bien. On prend le temps de la réflexion. On se retrempe, on se ressource dans la longue durée de l'histoire culturelle de l'Europe, sur laquelle, à juste raison, Jean-Claude Milner insiste. Après tout, si nous voulons, entre guillemets, selon la formule consacrée et galvaudée, faire l'Europe, il faut avoir conscience de ce qu'est la culture européenne. Or, la culture européenne, mieux que quiconque, Jean-Claude Milner a montré dans une partie de son œuvre qu'elle est aux confluences, en quelque sorte, de deux influences essentielles, Athènes et Jérusalem. Donc il faut penser ça dans la longue durée de l'histoire culturelle de l'Europe. Il y a évidemment une spécificité de la modernité, on y reviendra sans doute, la modernité réinterroge en quelque sorte cet héritage antique en le remettant au goût du jour. Je ferme cette parenthèse pour l'instant. Mais en revanche, si on vient, si vous voulez, au contenu plus immédiatement politique, ou même idéologico-politique, ou doctrinal et politique du livre, je vais essayer de résumer à grands traits sa thèse, de la manière la plus impartiale possible. La thèse de ce livre, qui est, j'allais dire, pris aussi dans la gangue de la langue à la fois précise, chatoyante et compliquée de Jean-Claude Milner, c'est qu'au fond, à vouloir, au sens, j'allais dire, du volontarisme politique le plus évident, à vouloir faire ou parachever l'Europe, nous serions menacés par un processus de dissolution, d'implosion, un processus que les physiciens appellent celui de l'entropie. Autrement dit, la meilleure façon de faire l'Europe serait de ne pas vouloir la faire. Je m'explique. Il y aurait pour Jean-Claude Milner, un problème structurel, en quelque sorte, des institutions européennes, qui passerait à côté de l'essentiel. Bon. Et le livre aboutit très rapidement à l'idée qu'au fond, nous serions aujourd'hui prisonniers d'une alternative de laquelle il serait impossible de sortir, selon l'auteur, l'alternative entre le sceau supranational, ce que certains appellent le sceau fédéral, mais c'est pareil, hein, ou post-national, si on parle comme Jürgen Habermas, qui l'étrille, ou bien la rétraction, le retour, au fond, la restauration vers la forme classique de l'État-nation. On a d'ailleurs entendu avant-hier soir différents candidats aux élections européennes qui se sont exprimés. Il apparaît assez nettement que le spectre, au fond, idéologique se partage assez globalement entre des partisans d'un achèvement du fédéralisme, ce que Milner ne veut pas, et les partisans d'une rétraction souverainiste, que Milner, au fond, ne condamne pas aussi fortement que je l'aurais pensé, au nom du cosmopolitisme européen. Mais je vais vous dire en quoi le livre m'a à la fois stimulé et déçu. Si on veut aujourd'hui prolonger l'aventure européenne, il est important de sortir du paradigme que Milner pose comme un postulat. Nous ne sommes pas condamnés à l'alternative, au fond, stérile, entre le sceau supranational, fédéral, et la rétraction nationalo-souverainiste. Et malheureusement, Jean-Claude Milner, avec Philippe Petit, dans ce livre par ailleurs stimulant et passionnant, nous condamne en quelque sorte à rester dans le cadre de cette alternative qui me paraît, je le dirai pourquoi, ne pas correspondre aux vrais enjeux de la construction, de la poursuite, de la construction et de l'aventure européenne aujourd'hui.
Oui, parce qu'il faut laisser un peu la parole à Thibaut Sardier aussi, à Alexis Lacroix, mais merci pour cette présentation en effet très complète de ce livre et des enjeux qu'il porte, qui sont évidemment les enjeux, on l'a vu comme vous l'avez dit jeudi soir lors de l'émission politique, ce sont des enjeux qui sont au cœur de l'élection européenne et de la campagne qui commence tout juste. Rappelons quand même, donc je le disais, que Jean-Claude Milner est un ancien Mao engagé dans la gauche prolétarienne, auprès de Benny Lévy, vous l'avez raconté, qui a fait ce chemin intellectuel de s'intéresser d'abord à l'histoire aussi de culturelle de l'Europe, à l'histoire de Jérusalem et la question de l'antisémitisme, la question juive, et qui a fait ce chemin qu'un certain nombre d'intellectuels de cette époque-là ont fait, de critiquer aussi notre modernité. On retrouve d'ailleurs une critique du capitalisme et de la marchandisation des esprits dans ce texte, mais justement au nom d'une certaine forme de critique de la modernité qui est présente dans ce livre. Mais Thibaut Sardier, quelle lecture vous en avez faite?
Écoutez, c'est vrai que on est un peu parfois perdu, dérouté par ce livre parce qu'on sait pas très bien où il va. Si je le prends à partir de la fin, il affirme plutôt que pour lui, toutes ses réflexions partent du postulat que l'Europe doit continuer d'exister. Or, les références multiples à la nation, à l'idée de nation, à la construction nationale, à l'importance que cette forme politique-là a prise dans l'histoire de l'Europe pour garantir la paix, la stabilité, font qu'on se demande finalement où jouer vraiment la construction européenne dans sa pensée. Alors néanmoins, il interroge évidemment cette notion et finalement, en proposant un regard original dans le débat dominant, il y a un petit passage qui, je trouve, est assez révélateur de sa critique du débat européen et de son propre positionnement. Il dit « À force d'avoir érigé la construction européenne en axiome, on a rendu toute réflexion impossible. Pour faire partie des élites en Europe, il faut commencer par une profession de foi européenne. Dès lors, d'emblée, le populiste prend l'avantage, précisément parce qu'il refuse l'Europe, il a réfléchi à son sujet. Même si cette réflexion est courte, mal dégrossie, mal informée, elle vaut mieux que l'absence totale de réflexion. » Et donc il critique l'éloge perpétuel des élites de cette Europe. Et c'est finalement peut-être là le problème. Faire partie des élites, c'est être pro-européen, ne pas forcément interroger la façon dont on construit l'Europe. Lui, au moins, insinue le doute sur la façon dont il faut s'interroger pour le faire. Et ce recours, je pense qu'on y reviendra, à l'idée de la nation et le fait que la nation n'est pas morte et qu'il faut s'appuyer dessus pour essayer de dessiner un avenir européen est, à mon avis, fondamental.
Alors, redonner à l'Europe un souffle politique, c'est quelque chose qui est au cœur de la proposition de Jean-Claude Milner dans cette discussion, cette conversation avec Philippe Petit, donc Considération sur l'Europe aux éditions du CERF dont nous parlons ce soir à Avis Critique. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On avait parlé ici d'un livre de Luc Van Middelaar, qui est un philosophe néerlandais, qui était la plume de Van Rompuy, d'Herman Van Rompuy, donc au sein de la Commission européenne, ou du Conseil européen, j'oublie tout le temps.
Ah, c'est pas la même chose.
Non, je sais que c'est pas la même chose, mais est-ce que vous vous souvenez si Herman Van Rompuy était à la Commission ou au Conseil?
Il n'est pas à la Commission, justement, on va en parler dans un instant. Oui.
Voilà, au Conseil européen, je sais bien que c'est pas la même chose, mais voilà, j'avais oublié ce qu'il avait dirigé. En deux mots, Alexis Lacroix, ce retour du politique, cette nécessité du retour du politique, elle est très présente dans cette conversation de Jean-Claude Milner.
Alors voilà,
Philippe Petit.
Il part d'un postulat, et donc je partage totalement tout ce que dit Thibault, on n'est pas en désaccord, hein, pour le coup. Mais il part d'un postulat qui est simple. Kissinger aurait eu raison quand, dans les années 70, il a raillé de manière sarcastique et bien caractéristique aussi de son tour de pensée souvent cynique, mais juste, l'Europe en disant « Europe, what telephone number ?» Quel numéro de téléphone ? Et donc, au fond, Jean-Claude Milner nous propose une réactualisation de cette interrogation. Le petit problème, et là j'en viens au lien que vous avez fait si justement, Raphaël, avec le livre important d'un philosophe qui, lui, connaît de l'intérieur les arcanes des institutions européennes, qui est Van Middelaar. Le petit problème, c'est que Jean-Claude Milner, avec l'éblouissante culture qui est la sienne, n'envisage l'Europe, c'est dommage qu'il n'ait pas parlé avec moi, je lui aurais dit de faire attention, il n'envisage l'Europe qu'à partir...
On lui donnera votre numéro.
Non, mais c'était une blague, naturellement. Mais à partir de l'impéritie bureaucratique de Bruxelles. Or, précisément, la Commission est infiniment critiquable, probablement, du point de vue même, d'ailleurs, du projet européen, hein, pas seulement du point de vue des souverainistes, que nous entendons beaucoup en ce moment. Mais elle est critiquable pour une raison très simple. C'est que, précisément, elle a une conception procédurale de la construction européenne et non une conception politique. Mais attention, Jean-Claude Milner, il est bien sympathique et je l'admire. Mais là, dans ce livre, je ne suis pas d'accord avec lui. Il réduit l'Europe à ce que nous explique au fond une pléiade d'intellectuels influents aujourd'hui en France. De gaucher à manante, on entend que l'Europe ne serait qu'une construction procédurale désincarnée. Mais attendez les amis, ça c'est la vulgate anti-européiste qui réduit l'aventure européenne à l'impéritie de la Commission qui a une conception procédurale. Mais à côté, vous avez une autre institution. L'autre institution pour laquelle justement Middelaar était le nègre de Van Rompuy. Et lui, il la connaît de l'intérieur. Cette autre institution, c'est le Conseil européen. Or, le Conseil européen, c'est l'embryon de ce que pourrait être une Europe politique. Alors, on l'appelle comme on veut, fédérale, supranationale, post-nationale, la constellation post-nationale de Jürgen Habermas. Mais il y a le Conseil. Or, le Conseil, c'est précisément tout ce qui donne tort à Milner. Qu'est-ce qui fait le Conseil depuis une dizaine d'années ? Middelaar l'a très bien montré dans son dernier livre. Le Conseil, il fait de la politique. Et vous savez comment il fait de la politique ? Il fait de la politique en faisant se rencontrer les chefs d'État autour de causes communes. Il y a eu quoi ? Il y a eu la Géorgie. Quand ça pète en Géorgie ? Quand Poutine est sur le point d'écraser la petite république démocratique de Monsieur Chakachvili ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le Conseil européen, en coordination avec Madame Merkel, Monsieur Sarkozy, qui est à l'époque président de la République, qu'est-ce qu'ils font? Une mission d'intermédiation pour sauver la Géorgie. Vous croyez pas que c'est de la politique, ça? Et vous croyez pas que c'est de la grande politique européenne? Alors franchement, ce qu'on aimerait conseiller, avec toute l'amitié et l'admiration qu'on a pour lui, à Jean-Claude Milner, c'est de faire un petit tour du côté du Conseil, de voir comment ça fonctionne concrètement, et de voir qu'il n'y a pas que l'opposition entre son décisionnisme souverainiste et le saut dans l'inconnu bureaucratique que constituerait Bruxelles. Il y a le Conseil à côté. Et le Conseil, c'est de la politique européenne. On ne peut plus concrète.
Alors, Thibault Sardier, c'est vrai que Jean-Claude Milner nous le dit, hein, l'Europe n'a aujourd'hui à sa disposition pour définir sa pensée qu'une doctrine de l'enrichissement. Alors, il y a tout un passage aussi sur la pensée protestante qui dominerait l'Europe, pourtant bon,
ça,
majoritairement.
C'est un démarquage des thèses, par ailleurs passionnantes, de Régis Debray contre Emmanuel Macron. Hein, il n'a rien inventé. Hein.
Non, mais voilà. En même temps, voilà, c'est présent dans le livre de Jean-Claude Milner. Et à cela, il oppose, puisque tout ça ouvre la porte, selon lui, au nationalisme populiste. Il propose un nationalisme rationnel, pour revenir à cette idée de la nation.
Voilà. Alors, sur la question des institutions, c'est vrai que c'est peut-être l'un des points faibles du livre, c'est que finalement, la discussion entre Jean-Claude Milner et Philippe Petit parle assez peu des institutions européennes.
De l'Union européenne, c'est plutôt l'idée européenne.
Voilà, ouais. C'est plutôt l'idée européenne. Et donc, effectivement, pour contrebalancer cette idée nationale, s'intéresser de plus près aux institutions aurait été important. Notamment, effectivement, la question du Conseil, qui regroupe donc les gouvernements européens et qui les conduit à négocier. Alors là, je suis pas forcément d'accord avec Alexis, au sens où moi j'aurais attendu peut-être plus d'approfondissement sur la question du Parlement, qui pour le coup sur l'idée de confédération, sur l'idée de dépasser cette idée des nations, est une question qui fait problème. Quel pouvoir est-ce qu'on donne au Parlement par rapport à la Commission, mais surtout par rapport au Conseil européen? Et du coup, ça on peut relire aussi l'histoire avec le livre. À cette aune, par exemple, Jean-Claude Milner développe la question du problème du couple franco-allemand. L'idée que la France, par exemple, a beaucoup profité de la politique agricole commune, que ça a été l'un des points de désaccord important avec l'Allemagne, qui ne voulait pas financer la France. L'Allemagne qui, au moment de la réunification, fait le choix justement de réassocier Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, donc réaffirme l'idée nationale au lieu d'autres voies, alors qui me semble quand même un petit peu aventureuse, mais que Milner ouvre sur l'idée que finalement une adhésion de l'Allemagne de l'Est directement à l'Union aurait permis de faire sauter cet échelon national pour vraiment affirmer l'idée supranationale ou de confédération, comme on voudra. Là, on est sans doute sur un point de l'histoire institutionnelle de l'Europe qui est assez important. Après, sur les nations, l'idée aussi...
Le nationalisme rationnel.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont il replace cette idée sur la scène internationale. Et là, pour le coup, c'est aussi une piste assez intéressante, je trouve, c'est de dire que l'Europe est finalement en décalage vis-à-vis des autres puissances du monde et notamment des États-Unis. Avec Obama et surtout Trump, les États-Unis redécouvrent ce que c'est qu'un État-nation plutôt qu'une fédération. Et là, il l'explique vraiment en termes géographiques. L'accélération des transports, les moyens de communication, tous ces réseaux permettent aujourd'hui
Le géographe est en vous, Thibault Sardier.
Voilà, s'en réjouit de ce passage. On a vraiment la possibilité d'une unification nationale aux États-Unis qui fait du coup émerger un modèle d'État-nation au moment même où les Européens essaie d'abandonner ce modèle pour construire une fédération ou une confédération. Et là, Milner dit, les Européens sont à contre-temps, donc quid de cette idée nationale.
Oui, Alexis Lacroix, c'est évidemment pas une Europe désincarnée en dehors du monde que nous décrit Jean-Claude Milner. C'est une Europe prise, et d'ailleurs ce sera aussi le cas dans le livre de Mathieu Calame, prise dans cette montée en puissance des nations et des puissances justement que sont la Chine et les États-Unis.
Thibault n'a pas tort. Nous sommes aujourd'hui, si on fait une description, comme on dit, des situations, au sens presque sartrien du terme, hein, la situation géopolitique de l'Europe aujourd'hui, quels que soient les désaccords internes qui puissent la miner, les débats qui existent, auxquels nous venons de faire référence entre la Commission, le Conseil et le Parlement. La situation, c'est qu'elle est, pardon d'employer un mot affreux, mais qu'elle est challengée par des néo-empires ou par des États-nations, schmittiens, décisionnistes, comme les États-Unis sous la présidence trumpiste. Mais là où, évidemment, je reprends à mon compte l'idée du nationalisme rationnel, c'est qu'en fait, sans vraiment le nommer, mais Jean-Claude Milner a comme modèle la République française, laïque, une et indivisible, peut-être même le modèle de la Troisième République, dont je sais, depuis de l'école, par exemple, qu'il l'admire, et tout ça est vrai. Mais là où je me sépare complètement de lui, c'est qu'il fait jouer une opposition qui aujourd'hui n'est plus valide. Nous ne sommes plus en France dans une alternative entre défendre la République, au sens où un certain nombre de responsables politiques ont pu le faire ces dernières années, défendre la République à l'achevènement ou à la Manuel Valls, si vous voulez, ou bien aimer l'Europe. C'est pas ça. C'est pas disjonctif, c'est conjonctif. C'est défendre la République et faire l'Europe. Et Jean-Claude Milner, et là, c'est vraiment mon désaccord de fond avec le postulat du livre, nous enferme dans une alternative qui serait soit on va reconstruire en quelque sorte notre État-nation, alors vous l'appelez comme vous voulez, État stratège et compagnie, soit on va l'abandonner, le laisser s'effilocher, se défaire, au risque évidemment d'une explosion des injustices sociales et d'une périphérisation supplémentaire de la France abandonnée, ou bien au contraire, faire le saut dans l'aventure européenne. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Je suis désolé pour lui. Nous pouvons aujourd'hui renforcer la République et nous pouvons aussi construire enfin cette Europe supranationale. Alors attention, là je reviens évidemment à des postulats de base qui ne sont pas les mêmes que ceux de Jean-Claude Milner. Cette Europe supranationale ne prendra pas la forme de ce que un politicien par ailleurs respectable comme Daniel Cohn-Bendit nous ressasse depuis des années. Ça sera pas l'effacement des États-nations. On n'en est plus là. On n'est plus sur cette alternative. Aujourd'hui, c'est pas État-nation ou supranational. C'est les États et la construction de cette entité qui est au-delà des États, qui est plutôt du international. Vous voyez, pour reprendre une métaphore qui existait dans l'Autriche-Hongrie pour décrire justement ce qu'était mais bien sûr ce qu'était l'Autriche-Hongrie. Elle n'était pas un effacement des nationalités, elle était une subsomption en quelque sorte, hein, une mise en transcendance. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est de ça qu'il faut repartir. Et donc j'en finis par là, le seul nationalisme rationnel qui vaille n'est pas la restauration d'un État stratège mythifié, etc. C'est la nouvelle conjonction qu'il faut inventer, que certaines forces politiques d'ailleurs cherchent à inventer, entre l'appartenance européenne, qui est une réalité et qui aujourd'hui nous permettra de survivre face à la Chine notamment, et la défense de notre État-nation, qui est absolument nécessaire si l'on veut qu'il y ait un minimum de justice sociale.
Alors on est passé assez vite malheureusement sur les chapitres passionnants sur la religion de l'Europe, sur l'Europe sociale, mais juste un mot pour terminer Thibaut Sardi en réponse à ce que vient de dire Alexis Lacroix, il faut parler de cette conclusion, de cet épilogue et donc où Jean-Claude Milner et Philippe Petit nous disent pour juger l'Europe, il faut regarder quelle influence elle a pu avoir et donc poser la question des pouvoirs et il oppose, il dit voilà on s'est beaucoup intéressé à la question des droits, il faudrait qu'on s'intéresse un petit peu plus aujourd'hui à la question des pouvoirs.
Oui, ça c'est un élément important puisque ça croise aussi toute une question sur les droits de l'homme qui est au centre du livre. C'est finalement de quelle conception des droits de l'homme et du pouvoir à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire comment son corps, sa capacité d'agir est respectée. Donc là, il retrace l'histoire européenne finalement en s'intéressant à la façon dont les empires, l'empire soviétique notamment, ont contraint cette puissance d'agir et comment justement l'une des possibilités pour l'Europe de se reformer, c'est d'affirmer cette protection de la puissance d'agir individuelle.
Alors, je suis entièrement d'accord
avec l'analyse de Thibault, sa lecture est juste, hein, mais on est toujours dans ce paradigme, et je vais le dire comme ça, hein, à mon avis totalement faux, qui est d'opposer une forme de volontarisme politique à la défense des droits de l'homme. Ça serait soit on est dans le volontarisme politique, donc on s'émancipe d'une certaine manière des droits de l'homme, du décalogue, soit on est dans la défense des droits de l'homme et donc on se condamne à l'impuissance politique. Mais attendez, c'est du Robert Kagan, c'est un démarquage des thèses des néoconservateurs américains.
Mais d'une certaine façon, il en appelle aussi à la puissance d'agir de l'individu lui-même et pas seulement aux institutions et aux politiques.
Comme d'habitude, le débat prend à 1 minute 30 de la fin de cette partie sur Jean-Claude Milner, conversation avec Philippe Petit, considération sur l'Europe, c'est aux éditions du CERF.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Well, she's enthroned in white grandeur, but tired and shift a whisper away with silver. From your eyes, I'd never seen you unkempt before. As you whispered, darling, close the door. How have I not made a note of every word you ever said? And time is not on our side, but I pretend that it's alright. She says the Lord has a plan, but admits it's pretty hard to understand. And before you leave, you must know you are beloved. And before you leave, remember I was with you. Are you afraid? However, could you not be in this rosy light? This is strange. I feel a hand come through the mirror, pointing at the light. Point at the light we never see, as you put your feathered arms over me.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous pencher sur le livre de Mathieu Calam, La France contre l'Europe, histoire d'un malentendu aux éditions Les Petits Matins. L'auteur, franco-suisse, ça a son importance, est ingénieur agronome de formation et dirige la fondation Charles-Léopold Mayer qui œuvre pour le progrès de l'homme par les sciences et le développement social. C'est en tout cas ce que dit son site internet. C'est donc un essai d'intervention plus que de spécialiste, un ouvrage issu, comme on dit, de la société civile. C'est aussi un essai qui porte une conviction, une thèse forte. L'Union européenne est à la croisée des chemins, le dénouement est proche. Soit les États membres acceptent le saut fédéral et constituent un État-nation européen, soit l'Europe confédérale actuelle vivotera avant de se déliter sous la poussée hégémonique des grands États nationaux et sous le poids de ses propres contradictions. L'essai s'ouvre sur ces mots et annonce tout de suite la couleur. Mathieu Calam entend défendre une position qui a pour ainsi dire disparu des discussions sur l'Union européenne, l'option fédérale. Il y a un corollaire à cette idée dans la mesure où les dirigeants européens qui se sont succédés ces dernières décennies, notamment en Allemagne et en France, ont affirmé leur amour de l'Union européenne et leur désir de l'approfondir. Comment comprendre qu'on en soit là aujourd'hui? Car l'auteur n'est pas tendre avec les institutions actuelles, on le verra. La réponse est simple. C'est la faute de la France, qui a toujours fait mine de vouloir une Europe forte, mais avec des institutions faibles. L'essai comporte ainsi deux parties. Thibaut Sardier, d'abord un retour parfois assez pédagogique sur les défis comme la souveraineté ou l'enjeu géopolitique. Puis, dans une seconde partie, il s'attache à montrer comment la France a bloqué l'intégration fédérale et Mathieu Calam d'aller chercher un exemple étonnant. L'Union européenne devrait prendre exemple sur la Suisse.
Oui, et c'est pour ça que finalement, le titre est pas forcément très bien choisi. On peut se demander s'il n'y a pas un petit coup éditorial là-dessus pour renforcer l'effet d'intervention, l'effet coup de poing. Puisque certes, il est question de la façon dont la France a bloqué le processus de construction fédérale européenne dans la deuxième partie du livre. Mais il y a toute une première partie qu'on pourrait presque diviser en deux, entre cet attrait de Mathieu Calam pour le modèle suisse, dont les institutions pourraient servir de modèle à la construction européenne fédérale, et puis la façon dont on peut replacer la construction européenne au fil de l'histoire et une identification de certains blocages. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut aussi constater, vous l'avez dit Raphaël, que c'est un essai assez alarmiste, en tout cas qui part d'un postulat alarmiste. Hein. Il va falloir faire le pari de la fédération, sinon ce sera la mort. Et donc à l'appui, cette idée que la façon dont la Suisse s'est construite, malgré sa diversité culturelle, malgré des cantons certains très urbains, certains très ruraux, où les religions ne sont pas toujours les mêmes, les langues ne sont pas toujours les mêmes, les niveaux de richesse étaient divergents, ont réussi à constituer un ensemble grâce à un projet politique. Et donc effectivement, de façon très pédagogique, il raconte la construction politique, la construction institutionnelle, notamment ces deux chambres. Alors moi j'avoue que je connaissais pas très bien le modèle suisse, donc j'ai beaucoup appris. Hein. Un conseil national qui représente proportionnellement le peuple, un conseil des États qui représentent cette fois-ci chaque canton, un gouvernement qui est un conseil fédéral avec 7 membres élus par une assemblée, la présidence qui est assurée de manière tournante pour éviter toute personnalisation. Et c'est vrai que ça dessine du coup un horizon qui est assez stimulant pour construire une Europe qui essaie d'unir tous ces pays malgré leur diversité. Alors après, il faut d'emblée pointer quand même quelques limites sur le choix de la Suisse. C'est quand même un État qui est plutôt riche. Alors on peut après gloser sur la diversité interne, mais les régions sont riches, en tout cas beaucoup plus qu'en Europe. La division de l'Europe par le rideau de fer a échappé à la Suisse. Donc est-ce qu'on pourrait reproduire ce modèle? C'est un petit État loin des 500 millions même plus d'habitants du continent qui a bénéficié historiquement de la protection de l'Europe des Habsbourg, du Royaume de France. Donc finalement, la thèse révèle aussi ses limites.
Même s'il y répond, même si Mathieu Callame y répond par prévention en quelque sorte, toute proportion gardée au 19e siècle, la Suisse était en Europe ce qu'est aujourd'hui l'Europe dans le monde, un espace de gouvernance faible, coincé entre des grandes puissances expansionnistes, maniant le nationalisme ou en voie de constitution sur une base nationaliste. Voilà ce que nous dit Mathieu Callame, c'est que finalement, vu que la Terre s'est rétrécie en quelque sorte par les moyens de communication, etc., l'Europe serait un petit peu la Suisse du monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Par exemple, peut-être, puisque je m'étais fait la réflexion en lisant le livre de quelqu'un qui nous fait une proposition fédérale et nous prend l'exemple de la Suisse, qui pour moi était une confédération. J'ai donc appris à cette occasion-là qu'on parlait de confédération helvétique, mais c'était bien une organisation fédérale, et que c'était bien une fédération, Alexis Lacroix.
J'ai appris moi aussi ça, je dois le dire. Et donc tout le chapitre concernant les préconisations dont Thibault parlait, les conseils en quelque sorte pour une helvétisation de l'Union européenne, au fond me paraissent pas si chimériques que cela et finalement assez stimulants sur le plan intellectuel. Alors je sais pas si il faut trois conseils en Europe aujourd'hui, je sais pas si une présidence tournante telle que nous la connaissons pourrait être transformée en une présidence plus exécutive. En revanche, face à l'embourbement qui menace de l'aventure européenne, je pense que ce type de réflexions sont effectivement tout à fait bienvenues. Mais j'aimerais quand même, avant qu'on revienne à l'helvétisation, les conseils pour une sorte de grande Suisse, de Suisse dilatée à l'échelle d'un continent, qui me paraît d'ailleurs tout à fait défendable. Encore une fois, j'aimerais qu'on revienne à un autre aspect de l'argumentation de Callame. C'est le procès de la chimère de grandeur française. Sur le fond, il faut dire les choses clairement. Il n'a pas totalement tort. Il y a un noyau, en quelque sorte, despotique à l'intérieur du gouvernement de la République qui est aujourd'hui irréductible. Il est faible, mais il est irréductible. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est les raisons historiques pour lesquelles il y a effectivement, peut-être niché au cœur de la République en France, un fond de méfiance envers le sceau supranational. C'est pas le souverainisme. C'est pas on ne sait quel nationalisme qui survivrait à la rationalité républicaine. C'est pas ça. C'est pas les anti-lumières, si vous voulez, autrement dit. C'est pas ça. C'est le fait que nous, en France, et il n'y a pas à en rougir, c'est une réalité, il n'y a pas à en rougir. Nous, en France, on est sur les cinq continents. Et c'est pas seulement, comme on nous le dit, disons, dans une gauche anti-impérialiste, c'est pas seulement le résultat d'une politique coloniale. C'est pas seulement ça. C'est la conséquence de l'universalisme français. Alors on peut en faire la critique, on peut dire que c'est une imagination de soi qui ne correspond plus à la réalité.
Et on ne s'en prive pas en ce moment.
Évidemment, mais attendez, avant de se flageller, moi j'aimerais bien qu'on explique ce que c'est que l'universalisme français. Alors, il y a un homme politique qui est pas suspect, vous voyez, d'appartenir à la droite néo-réactionnaire, comme on dit chez les bobos. Il y a un homme politique qui a vanté cet universalisme français. Vous savez qui c'est? C'est Jean-Luc Mélenchon. Dans un très beau discours il y a 3-4 ans, il a décrit ce pays, le nôtre, comme un pays qui est géographiquement, là ça va intéresser Thibault, il est géographe, qui est géographiquement présent sur les 5 continents du monde. C'est comme ça. Ben oui, c'est pas le cas de l'Italie, c'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas de la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est encore moins le cas naturellement de la République tchèque ou de la Hongrie. C'est une spécificité effectivement de la France d'aujourd'hui. Or ça a quoi comme conséquence? C'est pas le nationalisme, c'est pas les propos de Monsieur Philippot ou de Madame Le Pen. Ça a comme conséquence une responsabilité accrue pour le monde. Donc c'est vrai que cet aspect-là du livre de Callame me gêne, c'est la critique, entre guillemets, du messianisme français. Moi je le défends le messianisme français, mais contrairement à Monsieur Callame, et contrairement aussi naturellement à Monsieur Manon ou à Monsieur Milner, je pense pas qu'il soit contradictoire avec l'approfondissement de l'aventure européenne. Je pense qu'il est même un ingrédient d'enrichissement de l'aventure européenne. Pourquoi? Mais parce que c'est une projection vers le monde, si vous voulez. C'est ce messianisme français, c'est un souci du monde actif. C'est l'idée qu'en quelque sorte, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour d'autres hommes. C'était la formule de Malraux. Mais au fond, on peut être absolument, de ce point de vue-là, absolument républicain, français, donc attaché à ce messianisme de la grandeur, hein, si vous voulez, qui n'a rien de colonial, hein, faut arrêter les conneries, maintenant ça n'a rien de colonial, et par ailleurs absolument attaché à cette projection de la France hors de ses frontières, qui n'est pas un néo-impérialisme, qui est simplement un souci du monde, une responsabilité pour le monde, actualisée à l'échelle des défis européens d'aujourd'hui.
Mais puisqu'on parle de l'Europe, Alexis Lacroix, justement, je me demande en quoi ce messianisme, cette passion mortifère de la grandeur à laquelle vous succombez, j'ai l'impression, Alexis Lacroix.
Non, parce que justement, elle n'est pas mortifère.
En effet, c'est ce que vous venez d'expliquer. Et en même temps, on se demande en quoi elle est compatible avec un projet européen.
Voilà, on peut peut-être aussi se dire que cet universalisme, effectivement, qui a un versant très positif, se mêle avec un héritage colonial ou décolonial qui est encore présent. Les quelques pages sur la présence de la France et son attachement à l'Afrique.
Oui, elles sont totalement fausses. Je vais vous dire pourquoi dans un instant.
On va laisser d'abord Thibaut Sardier nous les présenter, nous dire pourquoi il pense que peut-être qu'elles sont vraies.
Moi, je trouvais que sans être spécialiste d'économie, mais la façon d'expliquer comment le franc CFA, les monnaies d'Afrique de l'Ouest, donc des anciennes colonies, sont encore indexées, pilotées, contrôlées par la France, et donc constituent en cela une difficulté, un obstacle pour la croissance économique du pays qui doit en passer par l'Europe. Et la France en particulier pour son développement, alors que d'autres voies seraient possibles. Et d'ailleurs, la Chine, assez offensive sur le continent, le montre bien, est un obstacle. Ensuite, l'exemple de la Suisse, on l'a pas dit, mais un deuxième intérêt, c'est aussi l'idée d'une puissance secondaire à l'échelle du globe. Et Mathieu Calab nous dit, finalement, peut-être faut-il aussi considérer que l'Union européenne, même si elle fait le pari de la fédération, devra se contenter d'un rôle aussi plus limité, de nouvelles formes de coopération. Et c'est en cela qu'il est intéressant, puisque l'universalisme français pourrait porter cette ambition sans recourir en tout cas aux enjeux du pouvoir ancien, justement hérité de la colonisation. Et dernier point, là cette fois-ci sur son explication du Brexit et la façon de penser le rayonnement, c'est aussi une question intéressante. Il explique que finalement le Brexit a pour motivation l'idée de se pencher de façon privilégiée du côté du Commonwealth, et donc ce qui reste de l'empire colonial, et que donc là clairement la Grande-Bretagne a fait le choix du Commonwealth plutôt que de l'Union européenne. Peut-être que, comme Mathieu Calame le dit, la France doit aussi peut-être faire plus nettement le choix de l'Europe fédérale, quitte à revoir certaines modalités d'association ou d'alliance avec d'autres zones géographiques.
Juste un mot, parce que c'est un livre, je crois, important pour comprendre cette mécanique du franc CFA en Afrique. Je signale le livre de Fanny Pigeot et de Ndongo Samba Silla, qui a été publié en septembre à La Découverte, qui s'intitule « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA ». La parole est à la défense, Alexis.
Alors, vous l'imaginez bien, cher Raphaël et Thibault, vous imaginez bien que je ne suis pas l'avocat de la France-Afrique. Je pense qu'il y a même dans ce dispositif de pouvoir des restes, des rémanences d'un impérialisme qu'en aucun cas je ne défends. Par contre, ce qui m'intéresse, je ne suis pas économiste, donc ce n'est pas d'argumenter en faveur du franc CFA, c'est de déconstruire deux stéréotypes idéologiques qui ont aujourd'hui la vie dure dans les gauches radicales. L'idée avancée par le vice-premier ministre italien populiste Luigi Di Maio que le franc CFA serait un outil d'oppression de l'Afrique francophone et d'autopromotion de la France pour passer de la 15e à la 5e place de puissance mondiale, ça c'est une pure diffamation. Et le deuxième stéréotype, mais qui est lié, c'est que notre présence, je le dis comme les militaires, hein, notre présence en Afrique, notamment dans la zone subsaharienne, serait une forme déguisée de néocolonialisme ou de néo-impérialisme. Ça, c'est une pensée qu'il faut absolument écarter de nos têtes. Et je vais vous dire pourquoi.
Mais c'est pas ce que j'ai dit non plus. Hein.
Ce n'est pas ce que vous avez dit, Thibault, mais c'est ce que suggère en revanche fortement l'auteur du livre que nous commentons et qui est par ailleurs passionnant, « La France contre l'Europe ». Mathieu Calame fait une critique des interventions humanitaro-politiques pour sauver un certain nombre de régimes, qui sont des régimes républicains et laïques, très inspirés d'ailleurs par le modèle français, contre le djihadisme. Un djihadisme, faut-il le dire, particulièrement virulent et que beaucoup de gens d'extrême gauche ont sous-estimé d'une manière absolument coupable pendant des années. Quand François Hollande, je suis pas un turiféraire particulier de François Hollande, mais il faut lui rendre justice. Non, mais il faut lui rendre justice. Quand en 2013, il déploie les forces d'intervention françaises, Serval et compagnie, dans la zone subsaharienne et notamment au Mali, c'est pour faire du néo-impérialisme? C'est pour faire du Mali une nouvelle colonie déguisée de la France? Mais attendez, là c'est pareil, il faut arrêter les mensonges démagogiques. C'est absolument pas pour ça. C'est pour restaurer, c'est pour faire du state building contre la destruction programmée d'un État, le Mali, par des djihadistes qui tuent les enfants et qui tuent les femmes enceintes. C'est ça la réalité. Donc si vous voulez nous présenter à longueur d'émissions, de talk show et de journaux pour certains, cette politique africaine de la France comme une continuité cynique de la France-Afrique, c'est faux. Ça ne correspond que très en partie, mais vraiment en infime partie à la réalité. Le temps, je vous rassure, hein, aujourd'hui, le temps de Focard et compagnie, il est terminé. Le temps du gaullisme cynique en Afrique, il est terminé. Ce qu'on fait, nous, en France, et on peut en être fiers, c'est du state building contre l'islamisme radical, pointe à la ligne. Donc maintenant, faut arrêter.
Voilà qui est dit.
Non, mais faut arrêter de présenter la France comme une puissance qui se, au fond, qui, dans le dos des autres Européens, ferait du néocolonialisme. Ça n'est pas vrai.
On en revient au fond de ce livre de Mathieu Calame. Je signale quand même que cette histoire de présence française au Sahel pose manifestement un problème. Il y a eu récemment une polémique autour de la revue Afrique Contemporaine qui a dû supprimer son dossier sur le Sahel sous la pression du ministère des Affaires étrangères. Mais voilà qui est dit, comme ça, c'est terminé. Thibault Sardier, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus ou avancer quand même sur la question
justement.
Européenne.
Alors pour faire le lien, mais revenir à des enjeux plus européens. Cette question de l'intervention française au Mali, par exemple, elle est intéressante puisque elle permet d'aborder un point que Mathieu Calame aborde durant quelques pages et qui va permettre aussi de revenir rapidement à ce que dit Jean-Claude Milner parce qu'ils sont assez d'accord finalement sur ce point. C'est la question de la subsidiarité sur laquelle il n'y a que deux ou trois pages où le concept est nommé dans le livre de Mathieu Calame alors qu'il en parle en creux assez largement. C'est l'idée que à chaque niveau territorial, du local au fédéral, du coup, en ce qui le concerne, il faut répartir les pouvoirs de façon cohérente pour la meilleure gestion politique possible du continent. Et il explique que finalement, historiquement, cette subsidiarité, elle a été montée à l'envers en Europe, que finalement, les institutions européennes s'occupent de fixer des normes pour les légumes et les fenêtres.
Un charcutier est plus encadré pour sa production de saucisses qu'une banque pour l'élaboration de ses produits dérivés complexes. Voilà, c'est une pyramide. D'inverser de la subsidiarité.
C'était l'exemple du charcutier et pas du primeur, pardon. Moyennant quoi, il dit qu'est-ce qu'il faudrait mettre à l'échelle de l'Union européenne? La gestion de la monnaie, c'est déjà le cas, mais aussi par exemple le fait de déclarer la guerre ou de défendre la paix. Et là, on a un point important sur lequel il faut réfléchir à la veille des élections européennes, c'est est-ce que les transferts de souveraineté, puisqu'il en parle aussi, les partages de souveraineté entre les pays, ne pourraient pas être établis sur ces questions majeures. Et donc, référence rapide à Jean-Claude Milner, il en parle aussi quand il fait la distinction entre la guerre formelle, celle que l'on déclare officiellement, et la guerre matérielle, celle que l'on mène avec un dispositif militaire, mais sans déclarer la guerre. En l'espèce, notamment, la guerre contre le terrorisme. Et donc, il montre que la France, notamment, s'embourbe dans des conflits qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas soutenus par la communauté internationale et notamment pas par l'Europe, et que transférer à cette échelle fédérale les questionnements permettrait d'assumer les choses, de développer une politique plus cohérente. Et là, donc, peut-être que cette façon de régler, de solder l'héritage de la France-Afrique serait aussi d'en passer par cet échelon-là.
Oui, il cite le cardinal de Retz, hein, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et pour dire c'est vrai à court terme, c'est plus faux à long terme, sur la question géopolitique.
Sur l'objectif idéal, on va dire presque kantien, hein, des transferts de souveraineté, moi je suis d'accord avec Calame, hein, donc je n'ai rien à redire à ce qu'a dit Thibault. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Mais attention, en l'espèce, nous parlons d'un problème précis. Et j'y reviens, et je suis désolé, je ne suis pas l'avocat des militaires, ni du Quai d'Orsay. Nous parlons d'un problème précis. C'est le djihadisme, dans sa forme particulièrement virulente, en Afrique subsaharienne. Si on transfère la décision d'intervenir au niveau, par exemple, européen, comme voudraient aujourd'hui nous y inviter les Allemands, en cédant le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Autrement dit, si on se met dans un processus que, en Amérique, les néoconservateurs ont toujours combattu parce qu'ils savent bien que c'est un processus d'impuissance. Mais il n'y aura jamais d'intervention au Mali. Il n'y aura jamais d'intervention dans la zone subsaharienne. Pourquoi ? mais parce que c'est une zone de responsabilité spécifique de la France. Et j'aimerais qu'on fasse définitivement, dans le commentaire journalistique autour de cette question, la différence entre un esprit de responsabilité pour l'Afrique et un esprit de domination de l'Afrique. Nous ne sommes plus, aujourd'hui, quand nous intervenons, même si c'est sous une forme extra-européenne, nous ne sommes plus dans du souverainisme de domination, nous sommes dans du secours, nous sommes dans ce que les juristes appellent le devoir de protéger. Le devoir de protéger les États démocratiques comme le Mali, et les populations comme le Mali, contre la violence, la dévastation, la culture de mort et d'apocalypse des djihadistes. Moi, ça me fait pas rougir. Et donc, j'ai pas envie qu'on oppose l'Europe à ce messianisme français-là. Je pense que c'est cet aspect-là du messianisme français, il est bon. Il apporte plus de culture démocratique, il apporte plus de vie et il fait reculer les forces de la mort.
Mais peut-être pourrait-il devenir européen.
Voilà, le débat de ces élections européennes est lancé avec le livre de Mathieu Calame, La France contre l'Europe, histoire d'un malentendu. C'est aux éditions Les Petits Matins.
L'instant critique.
L'instant critique, c'est la fin de cette émission. Vous nous donnez des conseils, peut-être, culturels, de lecture, de choses à voir. Alexis Lacroix, ces temps-ci, vous avez...
Alors, bientôt les élections en Israël, ça déchaîne
d'autres
les passions.
D'autres élections, oui.
Voilà. Mais justement, peut-être pour faire retomber la température des passions, un roman du plus grand écrivain israélien contemporain, c'est Avraham Yehoshua. Il publie Le Tunnel. C'est une introspection de l'Israël d'aujourd'hui à partir de la confession d'un homme de 73 ans qui est gagné progressivement par l'amnésie. Et cet homme est un ingénieur, constructeur de tunnels autoroutiers, et il va se trouver au fond confronté à la question essentielle aujourd'hui, qui est celle de l'autre palestinien, et il va prendre évidemment le parti de cet autre, qui est un parti, il faut le dire, contrairement là aussi aux réductions journalistiques, absolument compatible avec la poursuite du rêve sioniste. Le Tunnel, c'est chez Grasset, Avraham Yehoshua, traduit par Jean-Luc Alouche.
Voilà pour un conseil avant les élections israéliennes de la semaine prochaine, Thibaut Sardier.
Un conseil avant la fin du monde, qui arrive aussi très bientôt.
Espérons-le, après les élections israéliennes.
C'est une bande dessinée de Robin Cousin qui s'appelle Des milliards de miroirs. J'ai oublié malheureusement l'éditeur.
On va trouver ça.
Alors ça part de l'idée assez forte en ce moment, de la crainte d'un effondrement, notamment écologique. Et là, dans la bande dessinée, on y est un peu plus qu'aujourd'hui. Il fait chaud, les écosystèmes sont conservés dans des grandes bulles de verre. On creuse toujours plus pour chercher les dernières sources d'énergie, de gaz et de pétrole de schiste. Et puis on cherche aussi d'autres planètes à habiter. Sauf que voilà, le grand télescope qui utilise des milliards de miroirs voit une nouvelle planète, mais probablement une menace extraterrestre. Et donc, que faire ? Contre quoi ? Contre qui diriger les inquiétudes ? C'est un peu ça l'enjeu de cette bande dessinée, où finalement la peur de l'invasion des extraterrestres semble effacer la peur beaucoup plus immédiate des risques écologiques, avec une galerie de portrait qui incarne un peu des réactions sociales dont on a maintenant l'habitude de croiser. La scientifique focalisée sur son sujet qui est impuissante, l'homme politique cynique qui dit que tout finira bien par s'arranger, que si c'est pas le cas, tant pis. Le lanceur d'alerte avec une tendance un peu complotiste, une communauté qui voit dans ces extraterrestres une nouvelle forme de religion, moyennant quoi elle parvient à économiser l'énergie. Donc voilà, un reflet un petit peu de l'époque sur ces questions écologiques. On voit aussi poindre des ZAD. C'est extrêmement bien dessiné, ça s'appelle donc Des milliards de miroirs par Robin Cousin.
J'ai pas réussi à retrouver la maison d'édition, mais on la mettra évidemment sur la page d'Avis Critique sur notre site franceculture.fr. Merci Thibaut Sardier, merci Alexis Lacroix d'avoir participé
Raphaël
à cette émission vive sur l'Europe et bien plus audible que l'émission politique de jeudi soir, je dois le dire. Jean-Claude Milner, Philippe Petit, considération sur l'Europe.
On est quand même plus intelligent.
C'est aux éditions du CERF, je vous laisse dire cela, Alexis Lacroix. Mathieu Calame, La France contre l'Europe, histoire d'un malentendu, cette édition. Les Petits Matins, Avis Critique, c'est terminé, attaché d'émission. Catherine Donnet à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar à la prise de son, Guillaume Ledieu. Vous pouvez donc réécouter, télécharger, podcaster cette émission, vous abonner au podcast sur la page d'Avis Critique sur le site franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox.